Bonsoir. Donc pour ça fait à peu près 10 ans qu'on assure cette semaine d'infos sur la santé mentale. On peut pas dire que les effectifs augmentent d'année en année, mais je crois qu'il y a de la conférence un peu partout sur Poitiers. On peut pas dire qu'il fasse mauvais non plus parce qu'il fait beau. Donc peut-être que le thème fait peur. Effectivement, on m'a dit que certains malades, quand on évoque cette notion de crise, n'ont pas envie de venir, ce qu'on peut comprendre assez bien. Donc le thème général de la semaine d'info cette année, c'est santé mentale ou maladie psychique, comme on veut. Soit on prend le côté positif, soit on prend le côté négatif. En prendre soin ensemble. Donc comme dans les sections régulièrement à l'UNAFAM, on évoque la difficulté d'entrer dans le soin, hein, puisque le soin, c'est le début de la reconstruction et c'est le début d'une nouvelle vie. Donc cette question d'entrer dans le soin est importante. Et puis entrer dans le soin à travers la crise, c'est pas anodin, loin s'en faut. Donc ce sont des expériences vives, douloureuses, difficiles. Et on a là ce qui traduit un peu l'heureuse exception de la Vienne, c'est-à-dire qu'on a à la table, j'oserais presque dire bras dessus, un médecin généraliste libéral participant au service de permanence des soins. Vous savez, le numéro de téléphone que vous trouvez dans tous les journaux et à la porte de toutes... donc à la porte de toutes les pharmacies, là, 38-50-50. Et puis des représentants du service public de psychiatrie avec donc Jacques Collin, qui est cadre supérieur de santé à Laborie, hein, donc le nom complet, c'est service universitaire de psychiatrie adulte, mais pour ceux qui veulent se repérer plus facilement, c'est Laborie. Et puis Emmanuel Foucault, qui est cadre de santé à l'UAMP, donc unité d'accueil médico-psychologique, qui est un peu... l'originalité du département de la Vienne. Il y en a à peu près une dizaine qui fonctionnent sur ce modèle-là en France et qui correspond d'assez près à ce que demande l'UNAFAM, à savoir que les SAMU aient des équipes spécialisées psychiatrie. Donc ils vont nous expliquer un peu tout ça, comment ça s'articule, et puis compte tenu du nombre, je pense que la conférence pourra être interactive largement. Et donc, ils pourront répondre à vos questions. Donc, les premières questions qu'on se pose, c'est quoi la crise ? Comment ça se caractérise ? À partir de quand est-ce qu'on peut parler de crise ? À partir de quand est-ce qu'on peut parler d'urgence ? Et comment on rentre dans ce soin ? Gyrophare bleu, pas gyrophare bleu, médecin de famille, service public d'urgence, etc., etc.
Donc moi je vais donner un petit peu le point de vue du médecin généraliste. Hein. Ils sont beaucoup plus spécialisés que moi dans toutes les lois, les contraintes, les certificats, etc. Il y avait deux sujets que je voulais aborder. C'est premièrement donc effectivement le système de régulation médicale qui a été mis en place dans la Vienne en 2003. Puisque le premier appel que vous puissiez faire, c'est effectivement votre médecin généraliste, mais si votre médecin généraliste n'est pas là, c'est effectivement le 38-50-50. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc ça sera mieux avec des questions en interactif, mais sachez donc que ce système fait qu'il y a eu une diminution du nombre de médecins de garde. Notamment sur le département de la Vienne, dans un nombre de secteurs, il y avait toutes les nuits et tous les dimanches 28 médecins de garde dans la Vienne. Toute la nuit et tous les samedis dimanches. Vous savez que les médecins généralistes, et notamment en campagne, deviennent une espèce en voie de disparition. On a rapidement été confrontés à des personnes qui travaillent quelques heures par jour. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? hein, commence à 7 heures le matin, finissent à 10 heures le soir, et on leur demandait une nuit sur 4 ou une nuit sur 5 de faire la nuit. On a rapidement vu que les gens allaient décrocher et qu'on n'aurait plus personne. Alors, on est allé les voir, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, ils ont dit, ben nous on explose. Donc, on a décidé de faire une diminution drastique du nombre de secteurs, puisqu'on est passé de 28 secteurs à 8 secteurs, des secteurs beaucoup plus grands, avec un médecin qui se trouve dans une maison médicale de garde, de 20h à 24h. Au-delà de 24 heures, de 24 heures à 8 heures, ben on essaye de lui donner le droit de dormir. Et quand on dit à 8 heures, à 8 heures, il y a longtemps qu'ils ont commencé. Mais il n'y a pas de médecin de garde pendant cette période-là. On a installé ça en 2003. Il y a un nombre considérable. Alors, ce que j'oublie de dire, c'est que pendant ce temps-là, il y a donc un médecin régulateur libéral, un médecin généraliste libéral, qui est dans les locaux du SAMU. Si vous voulez, dans les locaux du SAMU, le médecin du 15 est là, et le médecin du 38-50 est là. Et on est à 3 mètres. On a donc deux numéros différents. On reçoit nos appels. Depuis maintenant, la population a bien compris le système. Il n'y a pratiquement plus d'erreurs. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'erreurs d'aiguillage. Vraiment, on a par dimanche où on fait 300 appels, on a une erreur, c'est-à-dire une personne qui a mal exprimé sa douleur. On s'aperçoit que c'est une douleur thoracique, risque d'infarctus, etc. Et pof, tiens, j'ai un appel pour toi. On transfère l'appel et hop, il est au 15. Et on a à peu près le même, enfin un petit peu plus d'erreurs dans l'autre sens, des gens qui appellent le 15 par excès. Et le médecin du 15 nous balance l'appel en nous disant ben non, c'est de la médecine libérale. Donc ça marche remarquablement bien. Ça a été pour nous une grande découverte parce que pendant de nombreuses années, on a essayé d'opposer l'hôpital et la ville. Et on s'aperçoit dans cet endroit où on est confinés ensemble que ça se passe remarquablement bien. On s'entend bien, il n'y a vraiment aucun problème. La population a été surprise au départ parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire ben, quand je téléphone, j'ai le médecin quand je veux. Hein. Mais quand on a fait l'analyse des appels, de la qualité des appels, enfin du motif des appels, on s'aperçoit que quand vous faites une nuit, moi je fais régulièrement des nuits, de minuit à 8 heures du matin, j'ai un appel à peu près, j'ai 3 appels par heure. Donc c'est une nuit gâchée. Mais dans ces 3 appels par heure, donc 3 fois 8, 24 appels, on envoie en général une ambulance. Donc il y a un appel pour le département qui nécessite l'intervention. Je parle hors SAMU, hein, hors douleur thoracique, etc. C'est une colique néphrétique, une rage dentaire, etc., qui nécessite un soin qui ne peut pas attendre le lendemain matin. Il y a en général une ambulance par nuit. Et vous vous rendez compte qu'avant, on avait 28 médecins généralistes qui étaient mobilisés pour ça. Donc là, je pense qu'on a gagné. Il n'y a pas eu de problème depuis... Depuis 2003, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu le système. Alors, donc, les 8 secteurs de garde, vous avez des maisons médicales de garde, et le malade se rend dans la maison médicale, le médecin se rend dans la maison médicale. On a diminué considérablement aussi les appels, parce que là, je ne vais pas être gentil, mais j'ai malheureusement un petit peu de bouteilles et d'années d'installation, et on en riait. Mais le dimanche soir, les appels tombaient toujours à 10h30. 22h30, c'était la fin du film. Et là, on s'apercevait que ben, tiens, le petit avait de la fièvre, que le. Enfin bon, puis pour des motifs. Donc maintenant, ils ont compris, ils savent qu'il faut appeler avant, donc on n'a plus tous ces appels-là. Et donc la régulation médicale, le médecin qui est. Vous n'êtes pas abandonné parce que vous avez toujours un médecin au bout du fil. Et ce médecin essaye de régler le problème avec vous, avec trois possibilités. Soit il règle le problème par un conseil médical, soit pendant les heures, il l'envoie au médecin de garde, soit en dehors des heures et pendant les heures du médecin de garde, il envoie une ambulance. Et la quatrième possibilité, c'est qu'il transfère au SAMU, mais je vous ai dit que c'était exceptionnel. Voilà. Donc ça, c'était pour le système de garde. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Deuxième chose que je voulais voir un petit peu, sur le, avant qu'eux, ils donnent l'aspect technique, c'est un petit peu sur ce qui nous régit, nous médecins, c'est le code de déontologie. Donc on a une obligation de soins et d'assistance à personne en danger. Et l'article 44 dit, lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Alors, cela tient à un autre exposé qu'on a fait sur la personne âgée vulnérable. Hein. Mais c'était pour vous donner le... S'il s'agit d'un mineur de 15 ans ou d'une personne, on se rapproche du sujet du jour, qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. C'est donc la levée du secret médical pour ces raisons-là. Hein, mineur ou personne pas en mesure de se protéger. La révélation d'une information... Alors, donc, si on ne respecte pas ça, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire, c'est le curé, etc., est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc le secret professionnel est quelque chose d'excessivement important. Et notamment dans ce cas-là, on le voyait parce que vous avez des personnes âgées qui subissent des sévices et qui n'osent pas se confier en se disant il va le révéler à mon mari ou à mon fils, etc. Donc on peut être amené à le révéler, mais ça sera toujours en accord, sauf si l'état psychique... Et on est fortement puni si on ne le respecte pas. La dérogation, donc je dis, pas applicable dans le cas où la loi impose et autorise la révélation de secrets. Il n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui sont imposés à un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou psychique. La même chose à l'envers. Et au médecin, qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et lui permet de présumer que des violences physiques, sexuelles, psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure, on revient toujours, et c'est levé. Mais le médecin est aussi levé de son secret avec l'accord de la victime. C'est-à-dire, si une personne âgée dit « Vous pouvez révéler ce que je viens de vous dire », là, il peut aller au procureur. Par contre, si la personne est tout à fait en état physique et psychique normal, dit bah, « Écoutez, je vous ai dit ça, mais on a régulièrement, dans nos cabinets, tous médecins généralistes, des femmes battues, qui nous disent « On est battu, mais vous vous taisez. Vous taisez. » Eh bien, on se tait. On n'a pas le choix. Et puis après, on a l'hospitalisation sous contrainte, donc j'arrête. Non. On va leur passer la parole à eux.
Oui, alors, moi, j'avais... on n'avait pas forcément préparé quelque chose, puisque c'était à l'origine Daniel Baudier, hein, du SAMU, qui devait... vous m'entendez, oui. Qui devait être présente ce soir.
Avec c'est celle qui est là avec moi.
Avec M. Bérard. C'est votre voisine.
C'est ma voisine, de Régule. Hein.
Mais bon, néanmoins, nous, on peut parler un petit peu du système de soins et de l'organisation du système de soins en ce qui concerne la psychiatrie, bien entendu, puisque c'est là qu'on travaille. Alors, bon, M. Bérard dit qu'il fait des permanences au niveau du SAMU, ou avec le SAMU.
Hein, au niveau.
Au niveau et avec.
En collaboration.
Donc, nous, on a un premier système qui est un peu le... comment dire, au même titre que le SAMU, un peu le système avancé, hein, de la psychiatrie, qui est l'unité d'accueil médico-psychologique qui est située au service des urgences, hein, du CHU, Hein. En fait, c'est pour nous une unité, une équipe de soins psychiatriques qui est hébergée au niveau, au niveau des urgences et qui est sollicitée en fonction de l'évaluation qui est faite, hein, des patients qui arrivent aux urgences par les médecins urgentistes. Hein. Les patients qui arrivent aux urgences sont des patients du CHU. Ils viennent au niveau des urgences, on évalue les choses, s'il y a un problème somatique, s'il y a quoi que ce soit. Et si l'évaluation, durant l'évaluation, il s'avère qu'on remarque des troubles qui font penser à des problèmes psychiatriques, psychologiques, le médecin des urgences peut demander l'intervention, l'avis, hein, l'avis de l'UMP. Alors je parle là de postes avancés un peu au niveau de la psychiatrie, on y reviendra. Emmanuel, qui travaille, vous expliquera ça plus en détail si vous le souhaitez, bien entendu. La psychiatrie, je pense que les uns et les autres connaissaient un petit peu le fonctionnement et l'organisation principale. On est basé sur le système de la sectorisation. Ça doit parler un peu à tout le monde. La sectorisation, c'est simple, hein, c'est géographique. Vous habitez tel endroit, vous êtes pris en charge par tel secteur, hein, par telle unité de soins, on va dire. Hein. Ça, c'est la base de notre organisation. Après, dans un secteur, et dans chaque secteur, puisque l'organisation est un peu similaire, chaque secteur a mis en place, bien évidemment, des consultations, hein, un CMP, des hôpitaux de jour, de l'hospitalisation complète, bien entendu, et ça peut prendre diverses formes. Hein. Aujourd'hui, alors encore peut-être plus qu'hier, et pour répondre à la question qui est posée ce soir, c'est l'entrée dans le système de soins, hein, c'est je crois un petit peu la question de ce soir. Je crois qu'il faut... Il faut qu'on évoque plus particulièrement la position actuelle des CMP, des centres médico-psychologiques, qui sont pour nous aujourd'hui, je dirais, le point névralgique de notre travail et pour vous un repère qui est, à mon avis, des plus importants. Hein. L'hôpital psychiatrique, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a 10 ans de ça, avait encore à peu près 1000 lits. À peu près 1000 lits. Aujourd'hui, on est à peine 350. Je vois M. Renaud qui arrive. Il a sûrement des chiffres plus exacts en tête que moi, mais je crois que c'est de cet ordre-là. C'est pour vous montrer quelle est la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de malades. Ça veut dire qu'on a changé un peu les modes de prise en charge, hein, et qu'on l'hospitalisation, aujourd'hui, est un outil qu'on utilise de façon, je dirais, assez parcimonieuse, de plus en plus rarement, et qui est utilisé, c'est vrai, dans des périodes, bien évidemment, qui sont celles les plus criantes et les plus problématiques. Hein. Je disais tout à l'heure avec M. Pétard et M. Bérard qu'en hospitalisation, je crois que les chiffres d'hospitalisation sous contrainte, alors on y viendra si vous voulez à l'hospitalisation sous contrainte et le détail de ça, on est à peu près à 30% d'hospitalisation sous contrainte. Ce qui est donc une forte proportion par rapport au nombre d'hospitalisations réalisées. Mais ce qui montre bien que l'hospitalisation, elle est là pour répondre à la crise. Hein, et que, autant que faire se peut, on essaie de prendre en charge. Et vous nous direz un peu comment vous ressentez les choses par rapport à ça. On essaie de prendre les patients en charge plutôt en ambulatoire. Hein, c'est-à-dire que c'est les prendre en charge en même temps dans leur contexte, dans leur propre contexte de vie, hein, et puis essayer de les prendre en charge, je dirais de façon anticipée, hein, parce que le meilleur soin, c'est celui qu'on arrive à mettre en place avant que la crise n'arrive. Hein, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Hein. Alors néanmoins, Néanmoins, bien entendu, il y a des compensations de pathologies diverses et variées sur un plan psychiatrique. Et là, on est bien obligé, bien évidemment, de les prendre en charge. Alors, soit en hospitalisation libre, soit en hospitalisation sous contrainte. Et vous savez que l'hospitalisation sous contrainte, elle revêt deux formes, qui est l'hospitalisation à la demande d'un tiers, que sont la plupart du temps les familles, les parents, un cousin, les parents proches, ou dans un certain nombre de cas, qui n'est pas négligeable chez nous, les tuteurs, sont souvent sollicités pour signer une hospitalisation d'un patient dont ils ont la responsabilité sur le plan tutelle et qui nous aident bien là-dedans parce qu'à certains moments, c'est difficile aussi de prodiguer des soins à quelqu'un qui n'en veut pas et pour lesquels on n'a pas forcément de famille. Et c'est toujours des situations difficiles à gérer et où on met un certain temps. Mais je crois que c'est important parce que c'est une garantie pour tout le monde. C'est une garantie pour le patient, bien entendu, mais c'est aussi une garantie pour le soignant que de dire on prend un patient en charge parce qu'il y a des troubles qui nous sont signalés par un tiers, bien entendu, sont authentifiés par un, voire plusieurs médecins, puisque l'hospitalisation en HDT, théoriquement, dans la plupart des cas, voudrait qu'on ait deux certificats. On utilise beaucoup le certificat d'urgence en hospitalisation sous contrainte, ce qui facilite les choses, parce que quand vous êtes médecin généraliste, que vous vous rendez au domicile d'un patient ou dans sa famille, et qu'il est obligé de rédige un certificat, et qu'il faut appeler un deuxième médecin pour avoir un deuxième certificat, c'est souvent compliqué, difficile, long, et on perd du temps pour tout le monde, pour le patient, pour la famille. Pour autant, la révision de la loi de 90 ne nous amène pas à simplifier les choses. On pourra en parler un petit peu après. un petit peu si vous voulez après.
Tu veux une loi qui simplifie les choses
Ça existe. Ça n'existe pas. Voilà. Quoi vous dire?
Est-ce que vous avez une idée du nombre de patients qui ont des proches en mesure de signer des HDT? C'est majoritaire, c'est minoritaire, on sait un peu ça comme dit l'UNAFAM, les veilleurs du quotidien, c'est l'exception ou c'est le cas?
Je sais pas, Emmanuel, tu as notion de chiffre là-dessus, sur les proportions de...
Moi, j'ai pas de notion de chiffre exact dans la réalité du fonctionnement. C'est vrai que, en général, quand on a une prise en charge aux urgences qui nécessite une hospitalisation à la demande d'un tiers, hormis des personnes qui sont complètement désocialisées et en rupture un petit peu avec le fonctionnement normal de notre société, ou des personnes qui sont dans un contexte qu'on appelle de voyage pathologique, issues de régions plus ou moins lointaines et pour lesquelles on a beaucoup de mal à tracer un petit peu le parcours et retrouver les origines et les liens de la personne, on peut aux urgences travailler et prendre le temps pour trouver une personne ayant un lien avec la personne hospitalisée qui va nous permettre de mettre en place un HDT, une hospitalisation à demande d'un tiers en ayant recours à un proche. Alors c'est vrai que le proche peut être multiple et varié. On en arrive même par certains moments, ce que je disais un petit peu en aparté tout à l'heure, à recourir au médecin traitant pour établir la demande de tiers et non pas pour établir un certificat, ce qui permet d'éviter dans certaines situations d'en recourir au placement plus lourd qu'est l'hospitalisation d'office, qui a des conséquences beaucoup plus importantes pour le patient. Mais en général, c'est vrai qu'on arrive toujours à trouver une solution pour la mise en place d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Oui, c'est quand même une grande majorité où il y a une signature de famille. Ouais. grande, grande majorité. Et la loi nous dit que le tiers doit connaître le patient et doit l'avoir vu et connaître un petit peu la nature de ses troubles et avoir remarqué lui aussi que...
Ça paraît un peu logique.
Non, oui, 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 mais à certains moments, on sollicite dans certaines circonstances des gens qui n'ont pas forcément vu récemment le patient. Dans le cas où sont des patients qui sont amenés aux urgences, par exemple, et qui ont été découverts en voyage pathologique, qui ont été arrêtés à Poitiers pour une raison ou pour une autre, là, le problème se pose à certains moments. Mais
un exemple très simple, dernièrement aux urgences, on a eu une dame d'une cinquantaine d'années qui vivait en Espagne il y a encore 6 mois. Et en fait, la famille, elle avait rejoint sa mère sur la Vienne, mais mère qui, a priori, était, selon le maire, aussi délirante que sa fille. On a eu recours à une nièce vivant en Espagne, donc qui n'avait pas vu sa tante depuis 6 mois, qui avait juste compris par des communications téléphoniques qu'elle n'allait pas très bien. Donc on a eu recours à l'utilisation, alors merci aux nouvelles technologies, mais d'envoi par mail de la demande de tiers manuscrite pour pouvoir établir l'hospitalisation. Parce qu'on n'avait aucun autre recours que ce recours lointain. Alors après, c'est vrai que se pose la question déontologique. Est-ce que, qu'en est-il de la validité de cette demande de tiers, sachant que ces personnes n'avaient pas été en contact depuis 6 mois, hormis par des contacts téléphoniques qui laissaient penser à la nièce qu'elle n'allait pas bien. Mais bon, on est parfois dans des situations un petit peu tangente comme ça. Et bon, c'est vrai que c'est toujours délicat. Et c'est délicat pour le demandeur d'hospitalisation de le faire sans avoir de contact physique direct avec son proche et sans être vraiment au courant de la situation réelle, quoi. Donc c'est vrai que c'est tout un travail de négociation et de présentation de la situation qu'on doit faire en étant le plus honnête et le plus objectif possible pour... ne pas non plus rentrer dans un système où, par facilité, on tromperait un peu les tiers dans ce type de situation.
Je crois qu'il y a un élément important, hein, au-delà de la signature dont on a besoin dans ce cas-là, bien entendu, puisque si le patient n'est pas consentant aux soins et qu'il en a véritablement besoin, il faut qu'il y ait une signature d'un tiers, hein, ou éventuellement d'un maire ou d'un préfet dans le cas du HO. Mais l'important, bien entendu, c'est pas seulement la signature, c'est la présence de la famille, parce que pour nous, on va pouvoir travailler avec la famille et pas seulement avec le patient. Hein. On le sait bien et vous le savez tous que dans les prises en charge dont on parle là, on a besoin de travailler avec l'ensemble, avec la famille qui connaît bien le patient, qui vient signer bien entendu, mais qui connaît bien le patient, qui est capable de nous dire, de nous décrire ce qui s'est passé. Hein, dans ces dernières semaines là, hein, où le patient commençait à être un peu déstabilisé, commençait à décompenser, avoir des idées un peu particulières, se sentir moins bien, être moins dans le contact, être en retrait, moins présent avec vous, avec les uns et les autres, moins dans l'échange. Et ça, bien évidemment, c'est des éléments importants. Et puis, c'est des éléments importants pour la prise en charge durant l'hospitalisation, mais évidemment dans un projet de sortie du patient, puisque quand on essaie dans la plupart des cas de régler la crise, mais au-delà de la crise, vous savez tous que dans ces pathologies-là, il y a un accompagnement continue à imaginer pour le patient. Alors, accompagnement continu, il prend plusieurs multitudes de formes, hein, bien entendu. C'est le traitement, la présence des uns et des autres, c'est l'entourage, c'est une vie professionnelle. Hein. Heureusement, il y a beaucoup qui ont une vie professionnelle. Hein, et voilà, et c'est tous ces éléments-là qu'on a besoin de prendre en compte pour traiter, pour évaluer, pour se projeter, pour se dire, eh ben, il va pouvoir ceci, sortir, faire ceci, faire cela. On va pouvoir lui proposer ceci ou cela en termes de soins, en termes de suivi, en termes d'accompagnement de prise en charge. Et bien entendu, je reviens à la famille, mais la famille est primordiale bien souvent dans ces situations-là.
Si on
le médecin généraliste aussi.
Si on revient à l'origine, qu'est-ce qui constitue urgence et comment est-ce qu'on décrit une situation qui relève de l'urgence? Enfin, est-ce que c'est simple pour vous? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que le dialogue avec le signalant va de soi et que très rapidement vous vous dites oui, bah, bien sûr, j'envoie l'UAMP dans le fourgon du SAMU, ou est-ce que ça vous paraît délicat à manier?
Au niveau de la réponse régulation, il est bien évident que si on a un médecin sur place, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que il faut bien souvent dans ces cas-là, c'est pas le malade qui téléphone, donc c'est la famille ou c'est le voisin. Il est évident que c'est pas facile, là, pour nous, de déterminer. Et si on voit quand même que c'est une situation de crise, c'est sûr qu'on aura plus tendance à envoyer un véhicule spécialisé.
Alors, ce qui est important dans ce schéma-là, un petit peu l'articulation entre régulation SAMU et UAMP, c'est que c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que rapidement, face à ce type de situation, la régulation n'hésite pas, contacte le service de l'UAMP, qui très régulièrement a déjà des données et des informations sur la personne pour laquelle l'appel a été transmis. Donc on est implanté au CHU, mais on a accès au logiciel des dossiers patients du centre hospitalier Henri Laborie. Donc ce qui veut dire qu'on peut rapidement, à partir du nom de la personne pour laquelle l'appel est lancé, faire une recherche d'informations, et si cette personne est connue de nos services, on peut, grâce aux informations relevées, faire une évaluation plus rapide de l'urgence ou pas de la situation par rapport aux antécédents connus du patient. Et c'est vrai que régulièrement, enfin quotidiennement, on a des transmissions d'appels par la régulation du SAMU pour des évaluations. Alors, plus particulièrement la nuit, puisque en fait, la collaboration UAMP-SAMU en termes de sortie avec le SAMU ne fonctionne qu'en horaire de journée, puisque les effectifs de l'UAMP ne permettent pas d'assurer ce service la nuit. Donc c'est vrai que quand ils ont un appel de nuit, ils sont très vite en recherche d'informations pour partir au moins avec quelques données sur leur intervention, même si il n'y a pas de présence physique d'un membre de l'équipe psychiatrique avec l'intervention SAMU. Mais quotidiennement, on est dans une relation très proche avec le SAMU. Et l'évaluation de la nécessité de l'intervention, certes, appartient au médecin régulateur du SAMU. C'est lui qui va prendre la décision de l'intervention. Mais c'est vrai que le lien et l'avis de l'unité d'accueil médico-psychologique est toujours bien pris en compte par la régulation du SAMU, et souvent la décision est conjointe et cohérente entre les deux services. C'est vrai que c'est...
Elle est toujours cohérente. Et ils ont un avantage sur nous. Premièrement, d'abord, ils sont plus formés à ça. Donc déjà par rapport à nous. Et deuxièmement, ils ont un petit peu plus de temps aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes en régulation, la catastrophe, c'est ce genre de situation qui arrive un dimanche matin. Le dimanche matin à 9h, quand on est en régulation, on a un petit compteur rouge devant nous, on est trois, et on a un petit compteur rouge avec le nombre d'appels en attente. Et quand vous voyez 24 appels en attente, et que vous avez quelqu'un qui commence à vous dire, ben voilà, c'est la crise à la maison, etc., là, on a beaucoup de mal à le gérer. Donc, c'est sûr qu'ils nous rendent service. Et puis, je voudrais dire aussi que depuis qui a, leur faire des compliments, c'est pas parce qu'ils sont juste à côté, mais depuis qu'a été créé ce service, pour nous les généralistes, ça a été une aide très précieuse. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les médecins généralistes étaient une espèce en voie de disparition, mais alors les psychiatres en ville, c'est des dinosaures, on n'en a plus. Hein. Donc avoir un rendez-vous de psychiatrie à Poitiers, c'est impossible. Tous les psys vous disent « je ne prends plus de nouveaux malades ». Et donc quand nous, on a des situations de crise au cabinet, jeune femme qui vient nous dire bon, « moi je veux me tuer », etc. Eh bien, on a ce recours-là qui nous rend énormément service.
Mais c'est vrai que oui, on a, enfin, en termes de demande par rapport à la médecine générale, très régulièrement, on a des appels de médecins généralistes qui sont dans la situation que vous présentiez avec une personne en souffrance dans leur cabinet, et souvent une méconnaissance des recours possibles en termes de prise en charge, une méconnaissance des conduites à tenir pour orienter la personne. Alors, c'est pas une méconnaissance des troubles ou de la pathologie psychiatrique, c'est vraiment une méconnaissance du réseau, voilà, de l'organisation, des démarches à effectuer, et c'est vrai que très régulièrement, on a des demandes d'avis, conseils par des médecins généralistes qui sont un peu démunis par rapport à ce type de situation. Et c'est vrai que quand on a également des médecins généralistes qui nous adressent des personnes, on parlait tout à l'heure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, souvent, encore aujourd'hui, certains médecins n'ont pas les documents adaptés à ce type d'orientation, en termes de certificats médicaux, en termes d'éléments obligatoires à faire apparaître sur le certificat médical. Donc c'est vrai que nous, on a le souci systématiquement, quand une personne est adressée par un médecin traitant avec une erreur dans l'établissement de ses documents, à recontacter ce médecin et à lui transmettre, soit par fax, soit par courrier, les modèles de certificats adaptés aux situations. Alors souvent, ils en sont ravis, et c'est vrai que quand la situation se représente, eh bien, ils sont moins démunis, et comme on a eu ce premier contact, ils sont plus enclins à nous appeler avant d'engager les choses. Donc c'est vrai qu'il y a un maillage un petit peu qui se fait sur le département de la Vienne, et nous, on est conscient qu'on a un rôle à jouer dans ce maillage et que c'est important qu'on soit aussi identifié, comme vous le disiez, comme un soutien, comme une aide et un recours possible en cas de grosses difficultés. Et on l'est également, enfin, ce maillage, bon, c'est un peu plus difficile pour la population, mais il y a dans la population qui a pu être confrontée à des problématiques psychiatriques dans l'entourage, une connaissance et une reconnaissance de ce service, et on a régulièrement des appels de personnes à qui on a conseillé de s'adresser à l'UAMP, voilà, par des liens, des proches qui ont eu à avoir à gérer ce type de situation et qui les orientent vers nous. Donc c'est vrai que c'est important pour nous d'accueillir ces appels, d'y répondre, et c'est vrai que ça permet aux familles d'être assurées, ça permet de gagner du temps, et on aide également les autres professionnels de santé dans la prise en charge de ces situations. Tout le monde peut nous joindre en passant par soit par la régulation du SAMU, bon, soit par le standard du CHU, soit par le standard du centre hospitalier Henri Laborie. Voilà, les appels sont transmis sur demande directement à notre service. Oui. Ah ben, très régulièrement, oui. On a soit les appels directs de nos habitués, on va dire, hein, comme tout service, voilà, on a nos habitués. Mais bon, c'est important qu'on soit là pour eux, parce que c'est aussi une barrière à l'hospitalisation et à certaines situations où on va éviter des passages à l'acte importants chez certains patients. Et on est aussi là pour les appels ponctuels. Soit de patients eux-mêmes, soit de famille, des demandes d'aide. Mais, voilà, on est bien identifié au sein de la structure CHU, que ce soit dans les services ou voilà, régulation SAMU ou standard, enfin bon, on est très bien identifié. Et c'est vrai que la diffusion se fait aussi au niveau de la population et des autres professionnels.
Je reviens juste un peu en arrière sur la volonté de réduire un peu les lits et la volonté que vous aviez de prendre en ambulatoire les patients. Est-ce que cette réduction des lits, est-ce qu'elle contrebalance par une poussée des CMP ?
Oui. Alors, moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et aussi pour répondre au propos de M. Pétard sur l'urgence et puis aussi sur la remarque de M. Bérard sur le manque de psychiatres. Hein, et comme il le disait très justement, c'est vrai que pour avoir un rendez-vous, c'est pas simple. Et donc, ces constats-là, ça nous a aussi poussé à mettre en place des organisations un peu différentes, je le disais tout à l'heure. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, des CMP. Depuis maintenant 2 ans, hein, sur Poitiers plus particulièrement, vous avez un CMP qui est regroupé, c'est-à-dire qu'avant chaque secteur avait son propre CMP. Le secteur 1 avait un CMP à Bonsaine, le 2 un à la Gibauderie en face de la polyclinique, le 3 c'était à la ZUP, à Schumann je crois, hein, si je me souviens bien. Voilà. Aujourd'hui, et la politique est aussi celle-là, hein, c'est de centraliser les choses, d'avoir un CMP d'une part groupé, qui soit bien repéré, hein, qui ait un numéro là aussi d'appel commun. Et ça aussi, c'est important pour que les uns et les autres aient plusieurs lieux pour pouvoir interpeller. Hein. Alors c'est le cas des urgences. Ça reste le cas de l'hôpital. Hein. Le standard de l'hôpital répond très facilement, vous dirige sur le service, vous dirige sur le cadre de garde si c'est le soir ou la nuit. Hein. Mais je disais tout à l'heure que le CMP, c'est bien aujourd'hui la tête de pont, hein, du système. Et aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est en difficulté, alors après, il faut mesurer l'urgence, il faut mesurer la crise, il faut mesurer un peu la symptomatologie. Mais dans les CMP aujourd'hui, vous avez une permanence au niveau de ces CMP. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de prendre rendez-vous. Hein, vous n'avez pas l'obligation de téléphoner, de prendre rendez-vous. Si vous le faites, c'est mieux. Parce que ce sera programmé, ce sera prévu, vous serez sûrement les uns et les autres, ou le patient sera accueilli dans de meilleures conditions, mais en même temps, il faut que, en tant que service public, et c'est bien aussi la vocation, et c'est ce qui me semble l'intérêt du service public, c'est de pouvoir répondre aux demandes. Hein, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans chaque CMP, il y a une permanence, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, eh ben, dans la demi-heure, hein, ou l'heure qui suit, il est reçu. Hein, il est reçu. Il y aura une évaluation qui sera faite. Il lui sera proposé un autre rendez-vous. Il lui sera proposé une orientation. Il lui sera proposé une hospitalisation. Il lui sera proposé en fonction de l'évaluation qui sera faite. Alors, c'est vrai que la réduction des lits a forcément eu pour conséquence une montée en charge de ce travail-là. Et c'est vrai qu'on on essaie, nous, de mettre des moyens aujourd'hui sur ces unités-là, pour autant que ce soit possible, parce que hein, la pénurie est partout, hein, mais c'est vrai que c'est un outil de soins qui est aujourd'hui très développé en termes d'évaluation, en termes de prise en charge, en termes d'orientation. Hein, ça, c'est fondamental. Alors, le nombre de lits... À 1000, ça peut paraître un fossé énorme. Hein. Passer de 1000 à 350, je vous l'accorde, ça peut paraître un fossé important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était en réunion cet après-midi, le téléphone n'a pas arrêté de sonner, il n'y avait pas un lit sur l'hôpital, donc c'est très souvent la croix et la bannière. Très souvent la croix et la bannière. Alors en termes de lits, on peut se poser la question s'il y en a aujourd'hui assez. C'est un débat récurrent. Mais quand même, pour vous dire que les 1000 lits qu'il y avait auparavant n'accueillaient pas forcément des pathologies en termes de crise. On était... Il y avait beaucoup d'hébergements, j'ai envie de dire. Et à défaut de modalités de prise en charge autres, on avait des patients de longue durée, et l'hôpital des Chalons en était un bel exemple. Hein, et c'est ces lits-là qui ont d'ailleurs été fermés. Et pourquoi ? Ben parce qu'on a pu trouver d'autres orientations pour ces patients, hein, pour la plupart, pas tous, mais pour un grand nombre, hein, qui sont aujourd'hui, pour certains, dans des structures médico-sociales, pour d'autres dans des foyers logements, certains dans des maisons de retraite, parce que ceux qui étaient à Chalon, ben, ils ont fait comme nous, ils ont vieilli. Donc voilà, hein, il y a eu à ce moment-là un éclatement des prises en charge et des patients qui étaient accueillis à l'hôpital sont très bien, sûrement peut-être même mieux, dans des structures, maisons de retraite, foyers logements, ce qui n'empêche pas qu'il y a une prise en charge psychiatrique, mais qui est beaucoup moins lourde, à titre de visite à domicile, à type de consultation, à type de rendez-vous, tout simplement. Hein, et pour la plupart, ça fonctionne. Certains moments, ben, certains d'entre eux vont moins bien, décompensent, sont réhospitalisés, sont pris en charge 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et retournent dans leur lieu de vie, qui sont des choses, à mon avis, des lieux plus adaptés que ne l'était l'hôpital. Et en ça, j'oserais dire que c'est pas plus mal. En ça, c'est pas plus mal. Après, je vous dis, le débat sur le nombre de places disponibles, de lits, il peut se poser.
Au-delà du nombre de lits, est-ce que c'est bien contrebalancé par une... Est-ce que la prise en charge offerte par les CMP et la demande correspond à peu près ?
Ben, écoutez, j'ose espérer... alors, je ne suis pas sûr qu'elle réponde à toutes les difficultés, hein, et, mais le CMP n'est pas le seul endroit. Hein, le CMP, c'est aussi, c'est pas seulement un lieu de prise en charge, c'est plus un lieu d'évaluation et d'orientation. Hein, on dirige vers des hôpitaux de jour, il y a une panoplie qu'il faut là aussi savoir utiliser. Hein, est-ce que je réponds à votre question ?
Oui, enfin, ma question était aussi sur le fait que les CMP ne sont pas débordés.
Ah, ils ont une charge de travail qui est considérable. Qui est considérable aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Hein. Et je vous disais tout à l'heure qu'on essaie de multiplier les moyens sur le plan infirmier, sur le plan médical. Pour vous parler de ce que je connais. Nous, on a un CMP qui est le CMP du pôle 2, hein, où on a trois médecins qui interviennent, bien sûr pas à temps plein, hein, mais qui interviennent. On a la chance d'avoir des internes, nous, puisqu'on a un service universitaire. Donc, tous ont une ou deux demi-journées de consulte. Hein, donc, ça veut dire quand même qu'il y a... Il y a une offre de soins qu'on essaie là de renforcer, de booster, parce qu'on sait qu'il y a une demande importante et que ce travail-là en CMP évite aussi, alors, avant tout pour le bien du patient, mais aussi pour le bien de nos services, les hospitalisations. Les hospitalisations. Et quand on parle, tout à l'heure, on parle d'urgence... c'est vrai que si on a un peu anticipé les choses, si on voit que notre fils, notre voisin, notre proche est en difficulté, qui commence, ce que je disais tout à l'heure, à être moins bien, à être moins dans le contact, plus dans le retrait, reste dans sa chambre, pour certains vont plus au travail, enfin bon, les symptômes peuvent être multiples et variés. Si on peut solliciter un CMP, si le patient est connu, c'est plus simple. S'il ne l'est pas, il y a toute une démarche à mettre en marche. Mais on évite une urgence, quoi. On évite quelque chose qui est plus lourd, une intervention éventuellement SAMU, un médecin généraliste qui arrive en catastrophe et qui est obligé de faire un HDT. Des choses qui sont toujours... Difficile, traumatisante pour tout le monde, hein, pour la famille qui a assigné un tiers, pour le patient qui n'est pas bien du tout, et pour lesquels ça risque de poser problème. Et on sait que les décompensations, c'est toujours plus difficile après de stabiliser la pathologie. Quand les choses sont bien décompensées, c'est plus long, en tous les cas. C'est plus long. Et ça nécessitera souvent des prises en charge plus longue en termes d'hospitalisation, voire autre.
Et ce retard à l'allumage là, dans la prise en charge et soins, d'après vous, c'est exceptionnel ou c'est le cas quasi général, parce qu'on a tous des pudeurs, enfin les familles avant d'en arriver là, le généraliste avant d'en arriver là, le travailleur social, l'enseignant, le collègue, le machin, enfin... on est quand même marqué par le refus de la délation, le refus d'intervenir dans l'intimité de chacun. Et que, ben moi, à la place où je suis, j'ai le sentiment que le retard à l'allumage, il est partout, non ? Ou je suis trop pessimiste ?
Mais, vous savez, je crois qu'il est partout, certainement, mais... Peut-être, je ne sais pas, ça c'est un peu subjectif, mais peut-être de moins en moins. Mais en même temps, on le voit bien dans les hospitalisations qui nous arrivent, dans les hospitalisations sous contrainte. Eh bien, c'est... Je veux dire, on aurait pu faire les choses avant, parce que les gens, après, vous disent que oui, on avait remarqué qu'il n'allait pas bien. Oui, on avait remarqué ceci, on avait remarqué cela. Ça, c'est évident. Ils savent vous le dire. Alors après, est-ce que c'est par pudeur ? Est-ce que c'est parce que on se dit ça va aller mieux, on se dit bon voilà, on va essayer de le soutenir, d'être plus présent. C'est aussi des réponses adaptées, hein, et ça me paraît normal. Mais c'est toujours quand on a très mal qu'on va chez le médecin. Alors il y en a certains qui vont pour un oui ou pour un non, me dirait M. Bérard. Mais le plus souvent, dans la pathologie psychiatrique, comme dans bon nombre de pathologies somatiques d'ailleurs, c'est quand on a bien mal qu'on y va. Hein. Et si on y était allé, je dirais 15 jours avant. Ou 8 jours avant, peut-être que je veux dire, ce serait passé plus facilement. Hein. Mais, bon, je ne sais pas quelle vision vous en avez, mais...
Oui, je crois que c'est la même vision que la médecine. Hein. En psychiatrie, c'est pareil qu'en médecine interne. Bien souvent, la venue est tardive. Mmh. Et pour quelle raison
Quand il s'agit de patients, c'est vrai qu'ils sont connus, les choses sont un peu différentes. Les choses sont un peu différentes parce que on connaît le contexte, on connaît l'organisation, on sait comment les choses se passent, on sait comment les choses évoluent quand un patient ne va pas bien, qu'il décompense. Souvent, c'est sur le même mode, d'ailleurs. Voilà. Hein. Les symptômes sont les mêmes. Hein. L'expression de la pathologie, elle est la même. Hein. Alors, c'est plus difficile, effectivement, dans premières décompensations qui peuvent être là aussi multiples et variées, hein, qu'elles soient psychotiques, qu'elles soient dépressives, qu'elles soient névrotiques, où on tarde. Vous avez quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien, qui déprime, vous lui en parlez, vous lui dites il serait bien que tu vois quelqu'un, il serait bien. Mais ça, c'est vrai que le temps. Entre le moment où vous lui dites ça, où plusieurs vont lui dire ça, hein, plusieurs proches, plusieurs amis vont lui dire ça, et le moment où il consulte, c'est vrai qu'il peut se passer un bon moment. C'est vrai qu'il peut se passer un bon moment.
Et puis il y a le temps. Le temps qu'on n'a plus.
Oui.
Là, on n'a pas de temps.
Vous parlez des médecins, là ou
ouais. On n'a pas de temps. On n'a plus de temps dans une journée. Et... Moi, ça me rappelle un patient qui n'allait pas bien.
En termes de réponse.
Oui, et je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais attendez, pourquoi je le voyais régulièrement. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas en parlé avant ? Ah, il me dit aujourd'hui, c'est la première fois que la salle d'attente n'est pas bondée. Mmh. Et ce jour-là, il y avait moins de monde, il en a parlé. Mmh. J'y fasse, là. Pas de demander à chaque patient. Mmh.
Alors ça, c'est vrai que c'est bien l'offre de soins qui permet d'anticiper les choses. Hein, si les gens savent qu'ils vont pouvoir être reçus. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut un rendez-vous, qui se dit « Tiens, je vais faire la démarche. Je suis pas bien, je vais faire la démarche. Je vais téléphoner, je vais prendre un rendez-vous chez le médecin psychiatre. » Monsieur Bérard vous disait, aujourd'hui, 2 sur 3 prennent plus de rendez-vous.
On est en mars, mais il va avoir un rendez-vous en octobre.
Il va avoir un rendez-vous...
Septembre-octobre.
C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, c'est vrai.
Ça fait un moment qu'il...
Monsieur Renaud.
Il
y a plus de 20 ans qu'il est en place.
Vous voulez dire que c'est pas assez connu? Diffusé. Parce que ça soit pas assez connu, là, vous êtes en train de m'enlever ma bouée de secours. Est en train de me torpiller là. Enfin, moi, les généralistes. Oui, non, mais si jamais on diffuse à tout va le numéro de l'UMP, ça va être rapidement débordé et nous, on n'aura plus notre bouée de secours. C'est...
Non, mais sachant, en plus, enfin, un des risques, je pense, d'une trop large diffusion de l'UMP, ce serait faire perdre un peu aussi à l'UMP sa mission première, qui n'est pas d'accueillir. Alors, l'UMP, on va dire, à un moment donné, peut-être, Jacques me contredira s'il le souhaite. Sauf que l'UMP, ça s'appelle unité d'accueil. Sauf que dans nos missions, on n'a a priori pas de mission d'accueil. On est, comme l'expliquait Jacques, prestataire de service auprès du service des urgences pour répondre à des demandes des médecins urgentistes. Ça veut dire que normalement, on a à prendre en charge que des personnes qui ont déjà été accueillies par le service des urgences. Et en fait, si on se mettait à remplir cette mission d'accueil de la détresse psychologique, c'est une des missions qui, normalement, revient au centre hospitalier Henri Laborie. Voilà, au CMP et au CHL pour les hospitalisations directes. Donc, c'est vrai que c'est... L'UMP, on n'a pas de lit d'hospitalisation psychiatrique aux urgences. On ne prend en charge que des patients des urgences, mais il n'y a pas de lit dédié à la psychiatrie aux urgences.
J'ai relu récemment la convention, il y a 4 missions, et parmi ces 4 missions, il y en a une où vous pouvez être amené à accompagner le SAMU sur le terrain.
Oui, tout à fait.
Oui,
oui. Oui. Ça, on le fait. On le fait c'est la participation à l'urgence. L'objectif de cette intervention conjointe avec le SAMU, c'est principalement d'optimiser l'orientation de la personne à sa prise en charge. Donc ça veut dire qu'on va éviter des passages inutiles par le service des urgences en permettant une orientation directe sur Henri Laborie en cas de nécessité, quand la psychiatrie est prioritaire. D'ailleurs, je voulais dire à ce propos, c'est vrai que Mme Baudier n'est pas là ce soir, la responsable du SAMU 86, mais c'est vrai qu'on a l'avantage sur Poitiers, et peut-être que l'habitude de cette collaboration a permis cela, d'avoir des médecins SAMU sur le SAMU 86 qui sont très performants sur ce type de prise en charge. Et souvent, l'organisation d'une sortie SAMU conjointe avec la psychiatrie, la prise en charge du patient est vraiment assurée en général par le médecin du SAMU, et le rôle de l'infirmier de l'UMP va être vraiment sur l'environnement direct de la prise en charge et souvent d'accompagner l'entourage, les proches dans cette prise en charge. Et c'est vrai qu'on a un gros travail des médecins du SAMU par rapport à ces sorties qui ne sont pas...
Mais on est bien là, M. Renaud, dans le cadre d'une prise en charge d'urgence. On disait tout à l'heure, et c'est peut-être la difficulté justement par rapport à une diffusion, parce que déjà le service des urgences psychiatriques, comme le service d'urgence somatique, répond à des urgences qui n'en sont pas. C'est pas M. Bérard qui me dira le contraire, je crois. Oui. Alors, je crois qu'il y a un système, il y a une organisation. J'ai envie de dire, les gens sont là pour répondre à telle ou telle mission. Je crois qu'aujourd'hui, et plus particulièrement sur l'UAMP, ils débordent volontiers un peu de cette mission-là, parce qu'ils savent que là aussi, ils sont bien situés, et qu'ils sont une plaque tournante importante. Vous savez, en termes d'hospitalisation, aujourd'hui... combien passe par l'UAMP ? Une sur trois doit passer par l'UAMP. Donc c'est pas rien. C'est pas rien en termes d'orientation. Ça veut dire que ça oriente quand même. Ça aide, quoi. Ça fonctionne. Et ça aide tout le monde, je pense. Les patients, les familles, les médecins généralistes qui, bien souvent... à certains moments, on pourrait sûrement d'ailleurs envoyer directement en hospitalisation, mais qui dirige vers les urgences parce que, c'est, d'une part, c'est plus pratique, parce que, d'autre part, ils savent qu'il y aura une évaluation qui sera réalisée et que, bon, le patient, il ne va pas arriver dans n'importe quelle condition en hospitalisation. Et ça, je crois que c'est important. Mais je crois qu'il faut aussi, autant que faire se peut, que chacun reste à sa place, quoi, dans sa mission. Mais... je ne remets pas en cause, en revanche, le fait que il faut informer, quoi. Il faut informer. Et c'est vrai que l'UAMP, elle est là aussi pour renseigner à certains moments, même si ce n'est pas pour prendre en charge, en tous les cas, pour informer, renseigner, ça c'est important. Au même titre que les CMP, mais le CMP à 19h, il est fermé. De 19h le soir jusqu'à 8h le lendemain, ou 9h le lendemain matin, c'est 9h. Il peut se passer des choses, il peut y avoir des besoins, bien entendu.
Je voulais dire en plaisantant, Vous venez de dire que le modèle de l'UMP va être pris dans la loi. Je dis que quand même, vous avez vachement de chance d'habiter dans la Vienne, parce que le système de régulation et de système de garde est exactement point par point ce qui a été repris dans la loi au niveau national. Mmh. Vous avez vachement de chance d'habiter dans la Vienne.
Bah, c'est un modèle intéressant, hein. C'est un modèle intéressant pour tout le monde, hein, pour les patients, pour les familles, pour les professionnels. Hein, c'est vraiment une mission que les uns. Oh, je crois que ça, ils le savent. M. Renaud. Ils savent que bah, ils sont situés à un poste stratégique et que bah, il faut. Ouais, ça demande un certain nombre de capacités et on y est vigilant. Hein, je sais qu'en termes de responsable du service de soins et en termes de responsable de cette équipe, hein, de l'UAMP, eh ben, on a une vigilance accrue sur nos recrutements. Hein, ça, on vous le cache pas, parce que bah, il faut qu'on ait des gens qui soient opérants, qui soient capables de travailler dans l'urgence, capables de répondre à des situations compliquées pour les patients, pour les familles, pour les médecins. Et c'est vrai que ça demande, des connaissances, d'expérience, connaissance du réseau, parce qu'il faut répondre rapidement, il faut être capable d'orienter rapidement et faire la bonne orientation, la bonne indication. C'est un peu comme un travail d'urgence, eh ben, faut sélectionner, faut être capable de diriger au mieux et au plus rapide.
Quand vous dites qu'il faut informer, qu'est-ce qu'il faudrait faire savoir qui n'est pas assez su aujourd'hui?
Moi, j'ai un élément qui est important, ouais. Je pense, qui serait à transmettre à tous les médecins généralistes du département. C'est qu'ils sont tout à fait en droit d'orienter directement des personnes sur le centre hospitalier Henri Laborie. Mmh. Puisque régulièrement, démunis, on reçoit des personnes qui viennent avec des courriers de médecins adressés aux urgences psychiatriques et qui, texto, demandent précisément une prise en charge en milieu spécialisé pour des troubles psychiatriques avérés qui ont été relevés par le médecin. Et c'est vrai que c'est un peu dommage pour le patient, puisque si on n'est pas vigilant à l'arrivée de ce patient aux urgences, il va se retrouver à être entre 2 et 4 heures aux urgences, alors que son orientation aurait pu être directe sur le centre hospitalier Henri Laborie. Et c'est vrai que c'est... Oui, monsieur Renaud.
Oui. Il y a des problèmes annexes.
Pour ce qui est des médecins traitants, souvent la plupart ne savent pas qu'ils peuvent prendre contact directement avec le CHL et orienter directement les personnes. C'est vrai que c'est... Alors pour certains, maintenant, on est aussi face aux difficultés d'occupation des lits à Henri Laborie, dans des formes de passage à l'acte où on adresse les personnes aux urgences, puisque de par l'activité des médecins généralistes, ils n'ont aussi plus de temps à donner pour justement prendre le temps de contacter les services spécialisés et s'entendre dire qu'on vous rappelle dans tant de temps pour vous dire s'il y a possibilité ou cette personne pourrait être accueillie dans tant de jours. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas entendables au niveau des médecins généralistes, et on le comprend. Ils ne peuvent pas se permettre de reporter sine die des hospitalisations comme ça.
C'est vrai que
on ne peut pas gérer ça.
Mettre une hospitalisation sous contrainte en place pour un généraliste, c'est pas un quart d'heure. Hein.
Oui. Mais on peut pas. Et d'autant plus que là, je vais pousser un coup de gueule, c'est que sur les rendez-vous au niveau du CHU, maintenant, donc nous on a l'habitude de faire une lettre, vous allez voir un tel, etc. Maintenant, les rendez-vous ne se prennent plus directement. On envoie le courrier. Donc, alors, en général, il faut qu'on le faxe, le courrier. Donc, il faut déjà qu'on fasse le courrier, qu'on le faxe. Et ensuite, on nous répond. Et ensuite, il faut qu'on recontacte le patient. Et si le patient doit prendre un rendez-vous, il téléphone et on lui dit « Ah non, il faut que ce soit votre médecin qui téléphone. » Alors, vous multipliez ça par 15 dans une journée, c'est abominable. Hein.
Mais néanmoins, pour répondre à votre remarque, tant M. Pétard que M. Renaud, c'est vrai que la communication, c'est pas notre fort, quoi. Non, mais je parle de ce que je connais et comment ? Oui, oui.
Seule communication possible, c'est la FMC. C'est d'aller dans les FMC.
Comment vous dites ?
Il disait un défaut de communication vis-à-vis des généralistes. Le seul moyen de communiquer, c'est d'aller dans les formations, dans les groupes de formation médicale continue. Parce que on se forme quand même le soir, hein, de 9h à minuit. Donc, dans ces groupes de FMC, là, vous pouvez y aller. Et là, il y a un message qui passera.
Mais il y a l'information aux médecins généralistes. Mais il y a aussi l'information à tout le monde. Hein, à tout le monde, parce qu'à la rigueur, on n'est pas obligé de passer par le médecin généraliste. Hein, on peut aller sonner ou frapper à la porte du CMP, ou pousser à la porte du CMP, il n'y a pas besoin de frapper. Pousser à la porte du CMP, mais encore faut-il effectivement savoir que le CMP existe, qu'il peut vous recevoir de 9h à 19h, sans rendez-vous. Ça, c'est des choses que... Pardon ? Sans passer par le référent, oui, absolument. Oui, c'est des choses qui... des choses qu'il faudra qu'on travaille.
D'ailleurs, quand on parlait de CMP, j'aimerais leur rendre un peu mal, parce que moi, ils me passent vraiment
plus rapidement. Plus fort.
Oui, donc, comme on revient un peu sur les CMP, enfin, qu'on rebondissait sur les CMP, je voudrais juste, après les questions que j'avais posées avant, leur rendre hommage, parce qu'ils m'ont été d'un soutien assez fort. Et autre question, c'est qu'est-ce qui, enfin, je ne sais pas si c'est une question facile à répondre, mais qu'est-ce qui peut caractériser l'urgence dans ce domaine-là particulier ?
Qu'est-ce qui peut caractériser l'urgence ?
Caractériser l'urgence.
Vaste domaine.
Est-ce qu'un patient peut donner le change à tel point que les intervenants peuvent se tromper ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on a été confronté au problème, voilà.
Oui. Pas sur du long terme, à mon avis.
Mais sur un coup
pas sur du long terme, à mon avis. Oui, sur une rencontre.
Sur un coup de fil même, je crois.
Sur une rencontre, oui, c'est, je veux dire, le médecin généraliste, il ne détecte pas forcément. Vous allez venir au CMP, on ne va pas forcément...
Pas pareil.
Souvent, c'est pas... les médecins du SAMU, on se soucie sur les interventions psychiatriques, puisque j'ai participé à quelques interventions psychiatriques, on se soucie de ne pas se tromper. C'est-à-dire que un médecin urgentiste, quelque part, a un peu horreur du doute. Ah, il veut comprendre et savoir. Et c'est vrai que le souci de ne pas se tromper est intéressant dans ces cas-là, puisqu'on est quand même dans une prise en compte de la personne qu'on a en face de soi et du respect de cette personne. Et c'est vrai que les médecins urgentistes sont réticents à emmener une personne en hospitalisation s'ils ont un doute par rapport à la réalité des troubles de la personne. Ils vont savoir prendre le temps, ils vont faire les choses... tranquillement, et ils essaient plus d'entrer dans quelque chose de l'ordre de la négociation et du consensus commun plutôt que d'être dans le passage en force. Alors, le passage en force peut avoir lieu si on est face à une décompensation franche, avérée, qui ne pose pas de questions éthiques par rapport à une prise en charge en hospitalisation, une prise en charge médicale. Mais c'est vrai que face à des situations qui semblent peu évidentes, où vous parliez de donner le change, choses comme ça, ils vont avoir tendance à laisser le bénéfice du doute à la personne pour laquelle ils ont été appelés. Sachant qu'en général, cette situation ne se produit qu'une seule fois. Puisque le système de transmission SAMU fait que si rapidement, peu de temps après, un nouveau SAMU est appelé pour intervenir auprès de cette même personne, en général, la prise en charge s'effectue. Mais c'est vrai que sur une première prise en charge, il arrive parfois qu'on soit dans des situations où le doute l'emporte et on va laisser la personne à son domicile ou en essayant d'orienter différemment dans le temps de la prise en charge. On peut faire sur une intervention SAMU une prise de rendez-vous immédiate au CMP, par exemple, sans emmener la personne à l'hôpital. Enfin, on a tout le dispositif en main, notamment quand l'infirmier de l'UMP est présent sur l'intervention. Mais c'est vrai qu'il se peut que on se trompe. Voilà.
Le patient est parti, il a pris ses bagages, parti à la gare, et on n'a plus ses nouvelles pendant très longtemps. Voilà. Mmh. Alors ça, c'était un petit peu dommage quand même. Mmh.
Mais c'est...
Pardon.
On ne peut pas tout détecter, là.
Oui, mais bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bien quand il y a un infirmier spécialisé.
Oui, mais lui aussi peut passer à côté d'une symptomatologie. Bon, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours criant. Hein. Bon, Emmanuel disait qu'il y a des décompensations bruyantes, bon, délirantes. Bon, ça, ce n'est pas très difficile à évaluer. Après, il y en a des choses qui sont un peu plus subtiles. Hein, voilà, et le bénéfice du doute, il existe. Quoi, hein, alors, bon, si c'est vrai que si le patient est connu, qu'on connaît un petit peu le mode de décompensation, ce qu'on disait tout à l'heure, bon, en règle générale, on ne va pas prendre de risques. Voilà. Mais après, sur des premières hospitalisations, des premières décompensations, c'est plus aléatoire.
Puis c'est vrai qu'on est aussi amené à travailler sur ce type de situation avec l'entourage, mais sur des éléments aussi de ressenti de l'entourage. Donc c'est vrai que les éléments de ressenti sont parfois difficilement objectivables. Par rapport à la connaissance que nous, on peut avoir de la pathologie psychiatrique et pour des personnes qui y sont confrontées pour la première fois. C'est vrai que ce qui peut sembler dramatique et paroxystique aux personnes de l'entourage, nous, sur les connaissances cliniques qu'on peut avoir et sur l'expérience qu'on a de ce type de prise en charge, on peut l'évaluer de manière complètement différente en disant non, ça n'est pas si important que ça et ça ne va pas nécessiter forcément une hospitalisation. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile pour l'entourage. Et là, notre travail, c'est d'être dans l'explication, dans quelque chose de pédagogique avec l'entourage, en essayant de faire comprendre aux gens que voilà, les signes qu'ils ont pu observer, ils les ont ressentis comme très graves et parfois insupportables, mais qu'en termes de pathologie et de clinique, on n'est pas dans quelque chose qui va nécessiter une prise en charge immédiate, mais qui peut être reporté sur une orientation vers un CMP, sur des choses un petit peu différentes. Mais c'est souvent difficile pour l'entourage, par défaut de connaissances. Et puis, il y a l'aspect affectif qui rentre en ligne de compte, dont nous, on est dégagés, bien sûr, puisqu'on est intervenant extérieur, et qui est parfois difficile pour l'entourage à accepter en termes de choses qui peuvent être ressenties comme une absence de prise en charge. Et c'est vrai que... il nous arrive de passer à côté de quelque chose dans ce type d'intervention. Oui.
Déjà, je vous dis, il y en a beaucoup de patients qui minimisent leurs symptômes.
Il y en a beaucoup qui maximalisent aussi.
Mais ça arrive souvent que la perception des proches amplifie une pathologie et que vous soyez amené à dire faut baisser d'un cran l'évaluation que vous faites ou... Parce qu'on évoquait tout à l'heure le retard à l'allumage. Moi, dans les récits que j'entends, j'ai le sentiment que le retard à la prise en charge est bien plus fréquent que l'alarme inutile ou le... Non ?
Ça peut se comprendre, hein, parce que il peut y avoir aussi un épuisement, hein, même si la symptomatologie n'est pas décompensée outre mesure, ce qu'on voit dans les cadres d'urgence, ce que l'évaluateur peut faire de cette situation-là, qui semble pas forcément d'une grande urgence, qui pourrait être prise autrement, quelqu'un, une famille ou un proche qui vit au quotidien avec, les choses sont majorées, sont répétées, on n'a pas la même perception des choses. C'est évident, et je crois que...
C'est l'usure de l'aidant.
C'est l'usure de l'aidant, exactement.
On évoque un troisième sujet qui est les autres formes de prise en charge, c'est-à-dire l'accompagnement social, médico-social, etc. C'est-à-dire que cette usure, c'est ce qui est traduit, quoi.
Mais en même temps, cette perception, ça ne répond pas forcément au thème que vous abordez, va dans les deux sens. C'est-à-dire que, pas sur des sorties SAMU, mais plus sur des situations qu'on a à prendre en charge aux urgences, où nous, on va faire une évaluation qui va nous conduire à définir une urgence de prise en charge qui ne va pas être du tout perçue comme telle par l'entourage. Mmh. Justement, une situation qui est installée depuis des années, qu'est-ce que vous voulez aller l'hospitaliser ? Ça fait des années qu'il est comme ça, on n'a jamais rien pu faire. Et nous, on perçoit un danger, quelque chose de majeur en termes de pathologie, et que l'entourage vit depuis très longtemps, a adapté son mode de fonctionnement à cette pathologie, s'est accommodé de ses troubles, et ne perçoit pas comme une urgence de prise en charge. Et c'est vrai que là, on va se retrouver en difficulté à notre niveau. On parlait tout à l'heure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, où l'entourage ne va pas du tout suivre la demande d'orientation médicale. Et on va être sur des situations de non prise en charge liées à un phénomène d'habitude et d'adaptation de l'environnement du malade à son fonctionnement pathologique. Et c'est vrai que c'est toujours délicat.
Et pour répondre à votre question aussi, je crois qu'il y a un élément, c'est que il y a un élément qui est à peu près constant, c'est que bien souvent, on est là dans des ruptures de prise en charge. Hein? On est dans des ruptures de prise en charge. Le patient n'a pas été vu depuis un bon moment. Il y a une espèce d'épuisement, qui est normal, que tout le monde comprend. Et là, on en arrive à une situation qui est vécue comme une urgence, mais qui n'en est pas forcément une, mais qui peut être vécue quand même comme quelque chose de difficile et que... Il faut aussi mettre un terme un peu à ça, quoi, hein, et reprendre, c'est là où c'est peut-être important, et ça il faut le mesurer, c'est plutôt nous ce qu'on essaie de faire, c'est de reprendre un contact, quoi, hein, de refaire en sorte de renouer quelque chose, d'une relation qui s'est perdue, hein, parce que le patient il n'est pas allé à son rendez-vous ou à ses rendez-vous, il n'est pas allé à la prescription d'hôpital de jour qui lui avait été proposée, le traitement, il a commencé à le diminuer de lui-même parce qu'il se sentait mieux. Hein, c'est le schéma classique. Hein, le patient qui prend son traitement, qui va bien, tant mieux. Et puis que petit à petit, il se dit, tiens, je lâcherai bien un peu, ça va bien, j'en prendrai bien un peu moins. Ce qui peut s'entendre comme ça. Hein. Mais bon, on sait les uns et les autres que c'est pas véritablement comme ça que ça marche. En tous les cas, pas de façon individuelle comme ça. Hein. Il faut dire qu'on peut baisser un traitement, mais c'est parce que on aura remarqué que le patient va mieux et qu'on peut lui baisser son traitement. Quand c'est le patient qui baisse lui-même son traitement, en règle générale, on sait bien à quoi ça aboutit. Hein, on sait bien à quoi ça aboutit. Et il s'en rend compte, lui aussi, après. Hein, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut l'expliquer, il faut le redire. Il faut qu'il, comme on dit dans notre jargon, il faut qu'il l'introjecte. Il hein, faut qu'il le comprenne que, ben oui, il faut qu'il prenne son traitement. Il faut qu'il prenne son... Hein, son neuroleptique ou autre chose, ou son antidépresseur. On est très souvent dans des ruptures de soins, ce que vous évoquez.
Dans la personne qui appelle, on en parlait tout à l'heure, je ne vais pas parler en psy, mais je vais parler en médecine, il y a vraiment cette usure de l'aidant. On le voit notamment dans la maladie d'Alzheimer. Hein. Pour dire à quel point le diagnostic est difficile, même pour la famille. Parce que je vais vous donner deux exemples. J'ai deux couples. Alors, un couple, où il y a un des deux qui a une maladie d'Alzheimer, et le conjoint voit ça tout à fait banal. Enfin, je veux dire, c'est sa vie de tous les jours. Et c'est la fille qui n'avait pas venue depuis 6 mois qui arrive, qui débarque dans mon bureau en disant « Attendez, mais vous avez vu ma mère, c'est pas possible, etc. » Donc, là. Et je vais vous donner un deuxième exemple où c'est l'inverse. C'est la fille qui vient et vous savez qu'au début de la maladie d'Alzheimer, les gens arrivent à masquer. Hein, c'est-à-dire qu'ils répondent, ils ont un petit peu des phrases toutes faites, etc. Et ça arrive à masquer un petit peu leurs troubles. Et là, c'est le mari qui voulait faire hospitaliser sa femme. Et la fille qui vient me voir en me disant bah, « Attendez, moi je viens de voir ma mère, elle me répond parfaitement bien à mes trucs. Qu'est-ce que bricole mon père ?» Donc, vous voyez, exactement la démarche inverse pour la même maladie. Et donc ça, c'est des gens qui vivent tous les jours ensemble. Alors quand les gens ils viennent nous voir une fois en consultation, tous les mois ou tous les 2 mois, c'est encore beaucoup plus dur.
Qui ne sortent plus de chez eux. On n'est pas dans l'urgence. Par contre, qu'est-ce qui est possible?
Alors, pour répondre, il arrive qu'on ait, nous, des sollicitations et des interventions conjointes avec le SAMU sur ce type de situation. Et là, ça va être sur sollicitation de l'entourage, puisque nécessairement, on ne peut pas détecter ce type de crise aiguë non bruyante, en fait, puisqu'il n'y a pas de retentissement dans le comportement social, puisque c'est un repli sur soi. Donc là, c'est vrai que nous, on est amené à intervenir sur ce type de situation par sollicitation de l'entourage. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a... Alors, sur des personnes connues, on parlait tout à l'heure des CMP, personne connue qui peut avoir un suivi CMP et qui ne va plus se présenter au CMP sans en informer le CMP, on peut avoir une vigilance de par les CMP, par des visites à domicile ou ce type de dispositif. Mais voilà, la problématique va être sur des personnes inconnues des réseaux de psychiatrie et qui vont être déjà isolées socialement avec peu d'entourage, qui vont entrer dans ce type de mécanisme. Ça va être un peu plus compliqué. Mais quand il y a un entourage présent et que l'entourage est réactif et peut solliciter de l'aide, on a les interventions SAMU, on a des interventions de la part des CMP. Enfin bon, il y a quelques dispositifs qui peuvent exister. Les visites
à domicile, après, c'est vrai sur tous les secteurs, ça ?
Pardon ?
C'est vrai sur tous les secteurs ?
Ah oui, 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 c'est vrai sur tous les secteurs, oui. Mmh. Oui, oui, oui. Alors c'est un outil de soin qui est aujourd'hui un peu moins utilisé hein, qu'il ne l'était il y a quelques années. Hein, parce que les gens aussi se déplacent plus facilement, hein, je dis bien en règle générale, hein, il y a des patients pour lesquels on établit, c'est sûr qu'il vaut mieux aller à domicile si on veut les voir, quoi, hein. Si on veut pouvoir suivre quelque chose, mais en règle générale, on arrive à le détecter, ça. Hein, on se dit que pour ce patient, il vaut mieux qu'on aille le voir, quoi, plutôt que de lui donner un petit carton de rendez-vous et lui dire « Monsieur, vous viendrez mardi prochain à 17h ou à 16h. Hein, » parce qu'on sait qu'il y a peu de chances qu'il vienne. Hein. Donc ça, c'est aussi une évaluation qu'il nous faut faire, hein, pour pouvoir proposer, je dirais, l'outil adapté. L'outil adapté. Mais ça a un sens, hein, aussi, c'est important. Et de plus en plus pour nous que de faire venir le patient, hein, que ce soit aussi une démarche volontaire. Et l'exemple de monsieur est intéressant en ça, c'est que mais c'est tout le problème, il n'y a pas de demande. Hein. Le patient, la personne, elle est chez elle, elle embête personne, elle vit sûrement dans son monde, il n'y a pas de manifestation particulière, bruyante, enfin, je ne sais pas si c'est l'exemple que vous avez en tête, ben c'est difficile d'amorcer quelque chose là. Hein. C'est difficile d'amorcer quelque chose. D'abord, est-ce qu'il y en a besoin ? Ça mérite une évaluation quand même un peu plus poussée et approfondie. Après, c'est bien évidemment, comme le disait Emmanuel Foucault, c'est parce que l'entourage, parce que les proches vont pointer un certain nombre de choses qui... qui sont un peu inquiétantes, qui ne sont pas forcément l'habitude aussi de la personne, et on voit que ça se dégrade. Donc là, faut essayer de l'amener, essayer de le motiver. Alors l'amener peut-être pas forcément aux urgences tout de suite, hein, parce que ça peut être, traumatisant, mais le médecin généraliste, en règle générale, est un bon secours dans ce cas-là. Parce que le médecin généraliste, il a... une mission un peu généraliste, si je peux me permettre. Hein, et
oui, mais il ne va pas au-devant des malades qui ne demandent rien, quand même.
Mais il n'a pas de visite obligatoire.
Non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que les proches qui sensibilisent et qui vont essayer d'aider peuvent diriger vers.
Oui.
Non ?
C'est vrai, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Tu vois, on a des proches qui nous disent « Il y a ci, ça, on est là, mais... » Personne ne dit, mais attendez, laissez-moi tranquille. Moi, je. Il y a aussi une liberté individuelle. Hein.
Oui.
S'il y a quelqu'un qui a envie de vivre tout seul chez lui.
La difficulté, elle est là.
À regarder la télé, à sortir une fois par semaine pour faire ses courses, si c'est son plaisir. S'il ne gêne personne et qu'il n'est pas dangereux ni pour lui-même ni pour les autres, chacun choisit sa vie. Il y en a qui sortent tous les soirs, il y en a d'autres qui.
C'est le libre arbitre de chacun, c'est vrai.
Oui, c'est toute la question de la liberté qui est posée. Ouais. En quoi est-ce une liberté ou en quoi est-ce la maladie qui pèse et qu'il n'y a pas d'autre...
Pas de maladie, du vivre seul.
Ben non.
Comment ?
C'est pas encore classé au niveau des maladies, du vivre seul.
Non, mais se racrapoter et pas sortir ses poubelles, même s'il n'y a pas de voisin que ça
gêne. Non, mais... Si on a un cardiogène, c'est autre chose.
Qui a vécu plusieurs hospitalisations où il s'est embêté et qu'il n'a pas envie de... Alors, il minimise tout devant le psychiatre. Il va régulièrement voir le psychiatre, mais il n'en dit pas le cas.
À part le sérum de vérité.
Il n'y a pas beaucoup d'efficacité des médicaments et autres. Alors, on stagne.
Vous savez, la relation médecin-malade, elle fonctionne le mieux quand il y a une totale confiance entre les deux, qu'on se dit tout. C'est là que ça fonctionne le mieux.
Il y a des choses qui sont invisibles. Il y a des malaises qui sont invisibles. Il y a un être.
Oui.
Mais c'est vrai que la question de la confiance, c'est... quelque chose de majeur. Et c'est vrai qu'en psychiatrie, on a le travers des hospitalisations sous contrainte qui font que cet établissement de la confiance et la relation de confiance entre la personne qui a besoin de soins et l'équipe soignante est souvent, souvent difficile à établir et demande une vigilance particulière de la part de l'équipe soignante. Et il y a des situations où c'est impossible d'instaurer cette relation de confiance du fait de la contrainte. Donc c'est vrai que c'est d'où ces comportements de, voilà, de, comme vous expliquez, hein, de dissimulation et après, le problème de la psychiatrie, c'est vrai qu'il y a aussi le lien entre le médecin et le patient, où la notion de relation interpersonnelle entre en ligne de compte. C'est vrai que le mode de fonctionnement du médecin psychiatre ne va pas forcément correspondre aux attentes du patient en face de lui. Donc c'est vrai que c'est, on a régulièrement des patients qui sont dans une demande de changement de praticien face à une insatisfaction dans la relation qu'ils ont avec le médecin psychiatre. Et c'est vrai que c'est une difficulté en psychiatrie, puisque la disponibilité des médecins psychiatres n'est pas extensible comme celle des généralistes. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile. Et en plus, dans la Vienne, on a le travers de ne pas avoir une offre diversifiée en termes de prise en charge, puisque il n'existe pas de structure privée d'hospitalisation en psychiatrie. Alors, ce qui fait que il y a des gens qui sont très réticents à être pris en charge dans le service public, que nous on voit passer aux urgences, et il arrive régulièrement qu'on transfère des personnes sur des cliniques de Touraine ou du Bordelais, enfin, ou dans les Charentes, parce qu'elles ne désirent pas être prises en charge par le service public. Et c'est vrai que ce maillon au niveau de la Vienne nous manque en termes de prise en charge, puisque si on propose une clinique qui se trouve à 100 ou 150 km du lieu d'habitation de la personne et en général du lieu d'habitation de l'entourage, on est face à des difficultés d'acceptation, puisque ça rend très difficile le soutien des proches lors de l'hospitalisation. Donc on a un maillon manquant là au niveau de la Vienne, qui est l'hospitalisation psychiatrique privée, quoi.
Est-ce que c'est le privé ou est-ce que c'est le statut ? C'est-à-dire, c'est peut-être pas la question du public-privé, c'est peut-être la question du soin de crise et du soin de post-cure ou du soin de suite. Hein.
C'est, on a des situations qu'on peut qualifier d'aiguës qui pourraient être prises en charge en dehors d'une hospitalisation sous contrainte. C'est vrai que souvent, on a des refus de patients qui sont liés au fait d'une orientation vers le centre hospitalier Henri Laborie. Voilà. Des situations où on pourrait avoir une acceptation si on pouvait évoquer le terme de clinique. C'est plus dans les représentations, je pense, de l'hôpital psychiatrique, dans le regard de la population en général. Donc c'est vrai que des fois on fait des orientations en hospitalisation sous contrainte du fait d'un manque dans le dispositif de soins.
C'est surtout le manque d'occupation pendant une hospitalisation. Il aurait aimé faire du sport, il faisait un temps magnifique, il était renfermé toute la journée.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué, hein, à l'hôpital. Le temps est long. Alors bon, effectivement, les moyens sont ce qu'ils sont. Et à certains moments, les gens sont inactifs à l'hôpital. C'est vrai, il faut le reconnaître. Hein, et ça, c'est difficile. Alors après, pour revenir sur le problème de la confiance, hein, et de la difficulté à fidéliser le patient, mais je crois que c'est véritablement quelque chose d'important, parce que d'abord c'est la base de notre travail. S'il n'y a pas une relation de confiance qui s'instaure, ça va être difficile de travailler avec le patient. Mais en même temps, il faut aussi imaginer que c'est aussi un symptôme chez le patient, c'est-à-dire que il le reproduit d'une unité à une autre. Hein, il veut plus être hospitalisé sur tel service, il veut être hospitalisé là-bas. Bon, ok, ça se passe, ça arrive, Très peu de temps après, les choses sont là, ça se reproduit. Hein. Bon, c'est vrai, à certains moments, bon, si ça ne passe pas bien, ça peut se passer bien ailleurs. Et je veux dire, ce n'est pas un problème pour moi. Et tant mieux si ça se passe bien dans une autre unité. Mais je crois que nous, en tous les cas, on ne doit pas le lire seulement comme ça. On doit le lire comme aussi un symptôme, hein, de la pathologie du patient. Hein. Vous avez des patients qui vont... 8 jours à l'hôpital public, qui vous disent je veux aller dans le privé, je vais à Saujon ou hein, et puis 15 jours après on les voit revenir. On sait comment ça fonctionne, mais on est aussi quasiment capable de dire pour qui ça va se produire. Hein. Pour d'autres, eh bien, c'est vrai que compte tenu du contexte personnel, compte tenu du contexte familial, compte tenu de l'antériorité de la prise en charge, eh bien on préfère à certains moments adresser en hospitalisation sur une clinique. Et ça fonctionne bien entendu pour certains. Mais nous, très souvent on le lit comme ça. Quoi, hein. On n'arrive pas à instaurer, et une équipe, quelle qu'elle soit, n'arrive pas à instaurer un lien qui fasse que on puisse mettre en place une prise en charge sur du long terme, parce qu'on le sait tous, ce sont des prises en charge à long terme, hein. Et quand on arrive à instaurer ce lien là eh ben on a gagné quelque chose effectivement sur la durée, hein. Et le patient aussi, parce que c'est, si on arrive à instaurer quelque chose sur la durée, le risque de rechute il est quand même moindre, ça c'est démontré. Ça s'est démontré.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Ou est-ce qu'on en...
Le 38-55 ans est-il accessible aux personnes qui ont du mal à parler? Ou qui sont muettes?
Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Le 38-55 ans est-il accessible aux personnes qui ont des problèmes à parler? Difficulté à parler?
On est au téléphone, hein, donc...
Si je pose la question, c'est parce que, par exemple, le service de la SNCF a la possibilité d'envoyer des SMS. La SNCF a un service qui s'appelle Accès Plus, et on a la possibilité de soit téléphoner, soit d'envoyer des SMS. Ça, je pose la question.
Je ne peux pas répondre, parce que c'est du domaine technique, c'est plus Daniel Baudier qui aurait répondu, puisque c'est elle qui s'occupe de la technique, mais je ne pense pas. Hein. Moi, j'en ai jamais vu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Enfin, je suis en train de réfléchir à ce que vous dites, là. De toute façon, je pense que si jamais ça se développait, ça se développerait sûrement plus sur le 15 que sur 38-50-50. Parce que c'est quand même quelque chose de très particulier, et je pense qu'on le mettrait uniquement sur l'urgence. Enfin, je pense pas. Enfin, moi, j'ai jamais... On a des problèmes quand on a un appel d'un numéro et qu'il n'y en a rien au bout. Ça, c'est un problème. Parce que 9 fois sur 10, c'est un gamin qui a fait le 15. Mais une fois sur 10, c'est une personne qui a fait un malaise. Donc, et quand on a, si vous allez casser la porte et que c'est le téléphone qui était décroché. Mais pour les muets...
Bien, on a tout dit pour ce soir. Donc, non.
J'ai encore une question. Par rapport à l'exposé que vous avez fait au départ sur le secret professionnel, qu'est-ce qu'il en est par rapport si le patient exprime des intentions de porter atteinte à autrui?
On est dans le secret professionnel.
Même si c'est des menaces de mort.
Le secret professionnel, on l'est par exemple dans à l'inverse, si quelqu'un vient par une blessure de couteau, c'est quelqu'un qui vient d'attaquer une banque ou des choses comme ça, on est dans le secret professionnel. Alors, rien à dire. On peut lui conseiller un petit peu plus fortement qu'il n'en aurait besoin d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. peut lui dire, oh là là, c'est très grave votre coup de couteau, alors qu'il n'est pas grave. Mais on est tenu au secret professionnel. On ne peut pas déroger. Vous savez que c'est un cas important. Je vais vous donner un autre exemple. Dans mon groupe de FMC, où on se réunit, on est 25 médecins généralistes et on se réunit le soir pour bosser, on a évoqué le problème et heureusement on ne l'a pas eu. Vous avez quelqu'un, un jeune homme ou une jeune femme, enfin, je ne veux pas me mettre mal avec la moitié de l'assistance, un des deux du CDE, qui a un HIV positif. Bon. Et qui on lui dit, bon, bah, écoutez, maintenant vous avez un HIV positif, il faut prévenir votre mari, il faut lui dire qu'il faut prendre des préservatifs, etc. Personne ne vous dit, je m'en fous. On n'a rien le droit de dire. On sait que cette personne-là va donner la maladie, et pas plus maintenant, mais à l'époque, la mort, et on n'a rien le droit de dire. C'est un secret médical. Et on s'est posé la question en se disant, attendez, si c'était mon fils, je serais quand même pas content du médecin en disant qu'il n'a pas prévenu. Bon, alors, il y en a un qui a eu, de notre groupe, qui a eu une idée, qui n'est pas glorieuse, mais qui est la cabine téléphonique avec le coup de fil. Non, mais on est obligé de se sortir d'une situation qui est dramatique. Heureusement, la personne n'avait vécu. Mais vous n'avez rien le droit de dire. La seule levée, c'est les mineurs. Une femme, on en parlait tout à l'heure, une femme battue. Une femme, elle est battue, elle nous dit, vous dites rien, c'est tout. Parce qu'en général, bah, c'est une femme qui a trois gosses, qui n'a pas de situation, et qui dit, bah, qu'est-ce que je vais devenir moi, avec mes trois gamins. Donc elle continue à ramasser. Alors on lui conseille SOS, femme battue, numéro anonyme, etc. Machin, mais on s'en fout, il dit, moi je n'irai pas. La femme qui est la troisième ou quatrième fois en deux mois qui vient vous voir en disant, une fois je me suis tapé dans la porte, une fois je me suis glissé sur la clé, une fois je me suis... Au bout d'un moment, on dit, maintenant ça suffit, elle se voit chialer, puis elle dit, oui, c'est vrai. Mais, secret médical. À temps en temps, on ne dort pas le soir. Hein.
D'où l'intérêt de venir nous voir. Bon, il me reste à vous remercier de nous avoir consacré votre soirée. Donc, de vous inviter tous à venir pour la suite, puisque donc mercredi soir, Balthazar, malade dans la tête ou de sa tête, je ne sais plus.
Ça, c'était une bonne. Tati Daniel.
Et puis jeudi soir, l'Auditriche, les deux projections. Et puis jeudi, la porte ouverte du fil d'Ariane dans sa maison de Salvaire. Voilà, donc ce sont des occasions de changer de regard aussi, puisque c'est l'objet de la semaine d'info sur la santé mentale. Il me reste aussi à remercier Mendès France qui nous accueille comme chaque année gratuitement et qui mobilise aussi... son personnel pour nous. Merci.
Merci à vous.